Vous écoutez On lit pour vous.
Nous sommes des immigrants, ou l'histoire oubliée de l'immigration chinoise au Canada. Un texte de Léane Tremblay paru le 7 juillet 2025 dans L'Eau vive. Dans son exposition « Nous sommes des immigrants, les difficultés cachées et l'héritage des immigrants chinois au Canada », présenté à la maison du lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan jusqu'au 25 septembre, l'artiste Ryan Kit Yi Chung explore une histoire aussi riche que méconnue. Pendant la pandémie de COVID-19, Ryan Kit Yi Chung a dû faire face, comme bien d'autres, au décès de l'une de ses proches, sa mère. En deuil, la sino-canadienne a commencé à s'interroger. « Je repensais au moment où ma famille est arrivée au Canada, au milieu des années 1970. Je me souvenais qu'il y avait eu des périodes très difficiles. Je me suis demandé ce que ma mère avait ressenti. Finalement, j'ai commencé à réfléchir à l'expérience des immigrants chinois arrivés un siècle avant nous. Aujourd'hui installé dans le sud de l'Alberta, Ryan Kit Yi Chung est photographe diplômé de l'Université Falmouth. « Nous sommes des immigrants » et sa première installation intégrant aussi fortement l'histoire à sa démarche artistique. « J'ai commencé ce projet en 2020, pendant mes études supérieures. Je n'avais aucune idée de l'ampleur qu'il allait prendre. C'était peut-être une bonne chose que je ne connaisse pas encore bien l'histoire des immigrants chinois, sinon j'aurais peut-être choisi un autre sujet. Je ne m'attendais pas à devoir faire autant de recherches. » Une histoire cachée. L'exposition explore les souffrances souvent invisibles des premiers immigrants chinois dès le milieu des années 1800, tout en célébrant leurs contributions et les liens qu'ils ont tissés au Canada. L'exposition dévoile une histoire souvent absente des manuels scolaires. Elle dépasse ainsi les rares références habituelles, comme le rôle important joué par les immigrants chinois dans la construction du chemin de fer canadien-pacifique, ou encore le tristement célèbre certificat de taxe d'entrée, Head Tax. La contribution des premiers immigrants chinois au Canada est qualifiée par l'artiste de révolutionnaire à plusieurs égards. Terminer la portion la plus périlleuse du chemin de fer, influencer les politiques d'immigration en faveur de l'équité, aider leurs voisins en leur accordant des crédits en magasin, se porter volontaire pour défendre un pays peu accueillant. Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont les immigrants chinois ont contribué à leur pays d'adoption. Les archives du gouvernement fédéral se sont révélées riches en informations pour alimenter l'exposition. Le gouvernement voulait suivre les mouvements des Chinois. Beaucoup d'efforts ont été consacrés à les documenter. Qui arrivait, qui repartait, qui faisait venir qui, etc. Les archives personnelles, en revanche, étaient plus difficiles à obtenir. Une fois que quelqu'un acceptait de me parler, il voulait tout me raconter et tout me montrer. Mais j'ai dû accepter qu'il y aura toujours des gens qui préfèrent ne pas partager. L'exposition aborde cette tendance à l'évitement, présente depuis longtemps chez les sino-canadiens, et exacerbé par la pandémie et la recrudescence des sentiments anti-asiatiques. Une mise en lumière. En tant que photographe, Ryan Kit Yi Chung a naturellement intégré des images d'archives dans son installation, qu'elle a reproduite et modifiée pour révéler les expériences souvent tues des premiers immigrants chinois. Les marques de carbonisation symbolisent les innombrables décès non documentés dus aux accidents de construction, souligne-t-elle. Et de poursuivre, les trous noirs évoquent la dépression et la solitude. Les éclaboussures représentent l'humiliation publique. Quant à la couleur jaune, souvent utilisée pour représenter les personnes d'origine asiatique, elle est ici réappropriée pour les célébrer et rappeler que la Confédération, la sécurité et l'économie canadienne ont été renforcées grâce aux premiers migrants chinois. Pour illustrer ces propos, l'exposition prend l'exemple de Li Chun, cuisinier à la maison du lieutenant-gouverneur au début du 20e siècle pendant 23 ans, et dont le passage aura pourtant été inaperçu. Une seule photo existe de lui, sur laquelle seule une moitié de son corps est visible. À part quelques phrases tirées d'histoires orales d'anciens employés de la maison et ses documents d'immigration, peu d'informations subsistent sur son existence. Le fait que l'image le coupe en deux personnifie toutes les formes de discrimination, non seulement du passé, mais aussi du présent, commente l'artiste. Ryan Kitley Chung souhaite continuer d'explorer l'expérience des immigrants dans son œuvre. Sauf les peuples autochtones, nous sommes tous des colons ou des descendants d'immigrants. Il est important d'y réfléchir avant de juger ou d'agir selon des préjugés. C'était « Nous sommes des immigrants » ou « L'histoire oubliée de l'immigration chinoise au Canada ». Un texte de Léanne Tremblay, paru le 7 juillet 2025 dans l'Eau vive.
S'instruit, s'enrichit encore? Un texte d'Hélène Barry, paru le 23 juin 2025 dans La Presse. Les livres sont rangés, les examens terminés, les diplômes décernés. Les finissants abordent maintenant le marché de l'emploi avec des attentes à la mesure des efforts fournis. Plusieurs seront déçus. Qui s'instruit? S'enrichit-il encore? Des doutes commencent à apparaître dans ce qui est depuis longtemps considéré comme une certitude. Au Québec, le taux de chômage des jeunes diplômés universitaires, traditionnellement plus bas que la moyenne, est maintenant plus élevé que la moyenne. Ici comme ailleurs, un diplôme universitaire ne garantit plus un emploi rapide ni un salaire élevé. Le niveau d'éducation augmente partout dans le monde, mais les besoins de compétences ne sont jamais en parfait équilibre avec l'offre dans le marché de l'emploi. Aujourd'hui, plusieurs pays parmi les mieux nantis de la planète se rendent compte qu'ils ont trop de diplômés universitaires et pas assez de travailleurs manuels. D'une part, les sociétés vieillissantes ont de plus en plus besoin de bras et de jambes. Elles sont à la recherche de main-d'œuvre dans les services sociaux, l'hébergement, le transport ou le commerce, des secteurs où un diplôme universitaire n'est pas exigé par les employeurs et où l'automatisation ne peut pas être une solution. D'autre part, la technologie qui a éliminé beaucoup d'emplois peu qualifiés remplace de plus en plus des employés avec un diplôme universitaire dans les secteurs de l'informatique et de la finance, par exemple. Le marché reconnaît cette réalité. De plus en plus, le salaire des employés de métier connaît une plus forte progression que celui des employés avec une formation universitaire. La valeur de l'éducation. Certaines formations universitaires sont encore moins recherchées que d'autres. Selon une analyse de la Réserve fédérale de New York, les diplômés en anthropologie, en sociologie et même en physique ont les taux de chômage les plus élevés parmi les universitaires aux États-Unis. Inversement, les détenteurs d'un diplôme en génie civil, en mécanique ou en éducation ont les meilleures perspectives d'emploi et de salaire. « Qui s'instruit s'enrichit » est une formule qui date de l'époque où les diplômés étaient rares. C'est moins vrai maintenant que leur nombre s'est multiplié. Il ne faudrait pas en conclure que l'instruction est moins utile qu'avant. La liste des pays du monde qui comptent le plus de détenteurs d'un diplôme universitaire est éloquente à cet égard. Il n'y a pas beaucoup de pays pauvres dans le lot. Compte tenu de la relation entre la croissance économique et l'éducation, les pays en développement font beaucoup d'efforts pour augmenter leur nombre de diplômés. Une société a besoin de travailleurs de la construction, d'universitaires de haut vol et de tout ce qu'il y a entre les deux pour pouvoir fonctionner. Ce n'est pas seulement une question de diplôme. Dans son sens large, l'éducation a une valeur qui va au-delà des statistiques sur le chômage et le salaire. Elle donne aux citoyens une compréhension de la réalité et une capacité d'adaptation au changement, ce dont notre monde a bien besoin. C'était « Qui s'instruit s'enrichit encore? » Un texte d'Hélène Barry, paru le 23 juin 2025 dans La Presse.
Souligné, un éditorial de Marine Dumaine paru le 26 juin 2025 dans l'Aurore boréale. Au Yukon, comme ailleurs au Canada, juin est un mois de célébration. Fin des classes, cérémonies de diplômes et solstices d'été sont autant d'occasions de célébrer, de chanter et de danser sous le soleil de minuit. Juin est aussi le mois où l'on compte le plus de journées internationales déclarées par l'ONU. Souligner, commémorer, sensibiliser. Autant de verbes qui rappellent que rien n'est jamais totalement acquis. Ce qui semble stable pour nous ne l'est peut-être pas pour d'autres. Quand nous vivons sous des cieux paisibles, d'autres luttent pour leur vie, pour leurs droits, leur terre, leur culture ou pour la reconnaissance de leur identité. Juin, aussi doux soit-il, me semble donc un moment parfait pour prendre conscience de nos privilèges. Commençons par le mois de la fierté, et donc, par extension, celui de l'inclusion et de la diversité. Je me souviens avoir amené mes enfants, il y a une dizaine d'années, à la parade de la fierté. Déjà, à l'époque, du haut de leurs trois pommes, il leur était complexe de comprendre ce qui était matière à célébration. « Pourquoi y a-t-il une parade ?» me questionnait-il. « On s'en fiche de qui aime qui. » Dans notre famille, cette parade a donc été rebaptisée la fête de l'amour, après que je leur ai expliqué que, dans la vie, tout le monde n'a pas toujours eu le droit d'être ni d'aimer qui elle voulait. Quel bonheur de voir que, de plus en plus, la nouvelle génération ne se formalise pas de personnel enseignant non-binaire, de changement de genre ou que des personnes de leur famille sont gays ou lesbiennes. Pourtant, les tabous persistent. Pas toujours facile, même de nos jours, de faire un coming out. Rien que ce terme, souvent traduit par « sortir du placard », exprime un geste réfléchi, un pas à faire pour sortir d'une cachette, tandis qu'il s'agit simplement de déclarer son soi naturel. Il reste encore donc du chemin à faire, et il est encore utile, judicieux et même nécessaire de continuer de revendiquer et de souligner le mois de la fierté. Le mois de juin est aussi le mois de l'histoire autochtone. Là aussi, le chemin parcouru, surtout au Yukon, est non négligeable. Quand on parle de cette histoire, on réfère à celle, douloureuse et complexe, que le Canada tente encore de regarder en face. À l'occasion de ce mois, il est bon de prendre conscience là aussi de nos privilèges et du chemin qu'il nous reste à faire pour apprendre et comprendre. Plusieurs centres culturels autochtones sont ouverts au public au Yukon. Carcross, Haines Junction, Whitehorse, Dawson sont autant d'endroits où les gens vous raconteront avec une grande générosité l'histoire de leur peuple. C'est aussi le moment de lire, d'écouter, d'aller à la rencontre. L'occasion de voir au-delà des boucles d'oreilles perlées et des cérémonies d'ouverture pour comprendre les récits, les défis de transmission, la résistance et surtout la résilience. Au mois de juin, soulignons aussi, sans ordre précis, les différentes journées qui ont eu lieu. Je ne peux toutes les énumérer, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Car souligner, c'est déjà poser un geste d'affirmation, mais aussi de soutien envers des causes qui méritent d'être encouragées. Ce mois-ci a souligné la Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la Journée mondiale de l'environnement, la Journée mondiale de l'océan, la Journée internationale pour le dialogue entre les civilisations, mais aussi la Journée internationale du jeu et la Journée mondiale du donneur de sang. Notons également la Journée mondiale contre le travail des enfants, celle de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées et la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine. Se trouve aussi dans le calendrier la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, la Journée des micro, petites et moyennes entreprises, la Semaine nationale des archives numériques et le mois de la santé mentale des hommes. Ce que ce mois nous enseigne, finalement, c'est l'interconnexion. Entre les gestes posés ici et les conséquences ailleurs. Entre la lumière continue du solstice et l'ombre portée de nos responsabilités. Juin, avec ses longues journées et ses multiples causes, nous invite à célébrer, oui, mais sans cesser de voir. À accueillir l'été sans fermer les yeux sur ce que la planète et sur ce que l'environnement socio-économique nous crie. Ce soleil qui ne se couche plus est magnifique. Espérons qu'il permettra de mettre aussi en lumière toutes ces causes que nous ne pouvons pas ignorer. C'était « Souligner », un éditorial de Marine Dumaine paru le 26 juin 2025 dans l'Aurore boréale.
Nager après avoir mangé, un texte de Mathieu Perrault, paru le 30 juin 2025 dans La Presse. Une lectrice, Marguerite Dion, demande « Est-ce que c'est vrai qu'il faut éviter de nager après avoir mangé? » C'est un mythe, selon Laurie Plotnik, urgentologue de l'Hôpital de Montréal pour enfants. L'idée que la digestion peut causer des crampes quand on nage n'a jamais été scientifiquement prouvée, dit la docteure Plotnik. Ça viendrait d'un ancien manuel scout. Les noyades survenues en 2011 et manger avant de nager n'a pas été retenue comme une cause possible de noyade, dit la docteure Plotnik. La supervision inadéquate, le manque d'éducation à la nage et l'absence de barrières étaient les causes principales des noyades. Consultez les sources de cette revue de littérature de 2011 de la Croix-Rouge illustre bien la difficulté d'étudier scientifiquement la question. 4 des 17 études, qui datent toutes des années 1960, se penche sur la performance d'athlètes qui ont pris une collation avant la nage. Les chercheurs n'ont pas relevé d'effets négatifs sur leur vitesse. La seule autre étude expérimentale citée, qui se penchait sur les effets gastro-intestinaux d'une collation avant un effort intense, a un lien encore plus ténu avec les noyades après un repas. La plus récente étude, qui portait directement sur le lien entre manger et nager, est japonaise et a été publiée en 2011 dans la revue Science, Medicine and the Law. Sur la base de 85 noyades, elle concluait que 79% des noyades accidentelles étaient survenues peu après un repas, contre 43% des suicides par noyade. Les suicides par noyade constituaient le groupe contrôle, un choix étonnant qui a toutefois été validé par l'acceptation de l'étude par cette revue avec comité de lecture, peer review. Mais les auteurs ont cité quelques faiblesses de leur propre étude, notamment 5 des 34 noyades étaient survenues dans une baignoire et 35% des noyades accidentelles impliquaient aussi l'alcool. Ensuite, les noyés par accident étaient aussi plus vieux, 61 ans contre 53 ans en moyenne, que les noyés par suicide. Tous ces facteurs laissaient les auteurs de l'étude hésitant à conclure que la digestion rend la nage plus dangereuse. Par exemple, si on omettait les noyés ayant consommé de l'alcool, il n'y avait plus de différence entre les suicides et les noyades accidentelles par rapport à un repas récent. La docteure Plotnik estime que l'étude japonaise compte trop peu de sujets pour être valide. Une autre étude sur le contenu gastrique des noyés, publiée en novembre dernier dans la revue Forensic Science International, n'a tout simplement pas évalué la présence ou non d'un repas partiellement digéré dans l'estomac. L'objectif de l'étude était de déterminer si certaines caractéristiques du contenu de divers organes permettaient de conclure que la noyade était la cause de la mort ou si la victime était morte avant de se retrouver dans l'eau ou était morte d'une crise cardiaque en nageant, note son auteur principal, Britta Zilg de l'Institut Karolinska à Stockholm. Dans le cas de l'estomac, seule la présence de mousse créée par l'ingestion massive d'eau était mesurée. Règlement. Selon la pédiatre montréalaise, le nouveau règlement québécois obligeant à avoir une clôture séparant les piscines des maisons et pas seulement des voisins est un grand pas en avant. Pour les noyades des enfants en bas de 4 ans, dit-elle, souvent on voit qu'ils sont sortis de la maison pour aller dans la piscine sans que les adultes s'en rendent compte. Dans la décennie précédant le dernier resserrement des normes sur les clôtures de piscine, en 2010, il y avait de 61 à 97 noyades par année au Québec. Depuis, à l'exception des années de pandémie où les restrictions au voyage ont altéré les statistiques, le bilan varie entre 52 et 84. Le record des noyades dans les 35 dernières années est de 152 en 1996. L'urgentologue ne croit pas qu'il y ait des questions en suspens en ce qui concerne les recherches sur la noyade ou alors d'autres resserrements souhaitables de la réglementation. Les accès aux lacs et aux rivières pourraient-ils être restreints par des clôtures? Il est sûr qu'il faut s'assurer que les enfants ne peuvent pas sortir de la maison pour aller au lac sans qu'on s'en rende compte, dit la docteure Plotnik. Il ne faut jamais nager seul. Certains nageurs adultes traînent derrière eux un coussin gonflable avec un sifflet au cas où ils auraient un malaise. Mais cela ne rend pas moins dangereuse la nage en solitaire, selon la docteure Plotnik. Si on a un malaise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde à l'appel du sifflet et vienne nous sauver. En savoir plus, source, Institut national de santé publique du Québec, 26. Nombre de noyades d'enfants de moins de 5 ans survenues au Québec entre 2017 et 2021. Source, Société de sauvetage du Québec, 17%, proportion des noyades qui surviennent dans une piscine. 29, nombre de noyades au Québec en 2025 au 26 juin. 60, nombre de noyades au Québec en 2024. C'était « Nager après avoir mangé », un texte de Mathieu Perrault paru le 30 juin 2025 dans la presse.
Mentorat Fitness, un camp pour inspirer les jeunes de la communauté noire. Un texte de Jonathan Sema paru le 9 juillet 2025 dans La Liberté. Le camp d'été SCB, dirigé par Stanislas C. Bell, a pour but de développer le leadership tout en travaillant sur la santé physique et mentale. Stanislas C. Bell, qui vit au Manitoba depuis 12 ans, avait déjà contribué l'an passé au camp Rêve de l'accueil francophone. Cette année, il se lance dans l'organisation de son propre camp, avec le soutien du Black History Manitoba, dont il est membre. J'ai ouvert une entreprise de sport et j'avais déjà en tête cette envie d'ouvrir un camp pour la jeunesse, car la jeunesse, c'est le futur. J'entraîne d'ailleurs déjà depuis un an ma petite sœur pour voir si le programme fonctionne bien. Le camp SCB, pour Strength, Curiosity et Boldness, force, curiosité et audace en français, est gratuit. Jusqu'à 20 jeunes sont attendus pour ce camp d'été. Le programme est en deux temps. La première partie, c'est inviter des mentors de toutes les communautés pour parler aux enfants. Des mentors qui ont tous des parcours différents. Ça va leur permettre d'avoir cette éducation de la société telle qu'elle est vraiment représentée. Puis, il y a le sport qui peut aider les personnes physiquement et mentalement. Il y a plein de belles choses que j'ai découvertes avec le sport et je veux les partager. L'on n'a pas besoin d'être un athlète, on a simplement besoin d'être dans la salle avec sa communauté et partager ce moment. Le programme dure 4 semaines. Stanislas C. Bell, qui travaille comme manager au service visiteur du Musée canadien pour les droits de la personne, pense déjà à d'autres éditions l'été prochain ou même l'hiver. Il assure en tout cas qu'il y aura un suivi avec les jeunes qui auront participé à ce premier événement. C'était « Mentorat Fitness », un camp pour inspirer les jeunes de la communauté noire. Un texte de Jonathan Sema, paru le 9 juillet 2025 dans La Liberté.